Attention, ok, 1, 2, 3. Anne-Lyn et Monsieur.
Une émission de Anne-Lyn et Monsieur.
Ok. Bah, non mais attends, comment on fait? Parce que là on n'a pas prévu de musique, ni rien.
On se dit... Ouais, on se dit ce qu'on veut, quoi.
Anne-Lyn et Monsieur.
Une émission de
Pierre.
Anne-Lyn et Monsieur.
Et Madame.
Un mardi sur deux sur Jet FM
91.2
et toujours
en direct.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Aujourd'hui, c'est la sixième émission d'Anne-Lyn et Monsieur et la première de cette année 2026.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je commencerai par me demander si on m'entend à la radio. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ça y est, je m'entends. Je commencerai donc par dire que cette émission est un peu l'extension cohérente d'une mutation psychologique entamée chez moi il y a peu. Je voudrais parler de ce que ma psychologue appelle mon nouveau paradigme. Pierre, ici présent, appelle ça plutôt BLC, pour bas les couilles. Version plus poétique pour désigner un même phénomène qui consiste à ne plus rien anticiper. Ne plus préparer, projeter, programmer, planifier, organiser, escompter, céduler, mais résumer l'existence à un gros « on verra bien » et récolter les fruits juteux et satisfaisants de l'improvisation. Ce comportement erratique, vaguement inconséquent et éminemment satisfaisant, essayez, vous verrez bien, n'est pas sans lien avec son pendant tétanique qui, lui, consiste à être parfaitement inapte à réaliser ce que l'on attend de vous. Par exemple, j'ai beaucoup repoussé le fait de devoir vous parler aujourd'hui des trois mots que j'ai complètement oublié d'annoncer de l'émission qui sont rivière, vampire et poulet. J'ai eu du mal parce que pour moi, c'était un peu comme si l'on m'avait demandé d'écrire un hommage à un être éminemment aimé et admiré. La pression est telle que c'en est incapacitant. Je parle du poulet. Car le poulet est une chose éminente dans mon existence. Non seulement je le mange souvent, mais il est comme le centre rotatif d'une grande joie toujours renouvelée dans mon existence. Aujourd'hui donc, je vais déblatérer de façon erratique, d'une façon absolument futile et en rien végane. Je vais vous dresser comme une vie de saint gallinacé ou comme une forme de poulet au poulet. Car le sachiez-vous, écrire un poulet, ça veut dire écrire un billet doux. Ça vient du XVIe siècle. Vous savez ce siècle, Montaigne et Magellan, Renaissance et Protestants. On disait écrire un poulet, probablement parce que la forme des plis de l'enveloppe en petits triangles sur les côtés faisait penser au si bien aimé poulet. Ou alors parce que on demandait à des gens de marcher dans la rue avec le poulet sous le bras et on planquait le fameux billet doux sous les ailes du poulet. Désolée si le son sature, j'arrive pas à savoir pourquoi. J'en reviens à mon poulet. Une petite mise en garde à l'auditeur et à l'auditrice, au-delà du fait que peut-être le son est particulièrement fort. Je tiens à préciser que cette émission n'est pas dédiée au poulet, l'animal vivant de son état, mais bien à celui qui est cuit. Trigger warning, comme on dit en excellent anglais et en pitoyable français. Il sera donc question ce soir d'animaux morts et de carnivorisme.
C'est moi. Dis-moi, hier soir j'ai sorti des tripes, j'ai 5 ou 6 kilos de tripes, là, je vais les faire. Donc je sais pas si ça t'intéresse de venir voir ou de les manger ce soir, parce qu'on va les faire on en mangera certainement ce soir. Bon bah tu vois, tu m'appelles. Hein. Peut-être que même je t'attaquerai peut-être dans les merguez aujourd'hui ou dans les rillettes, on verra bien. Bah, si tu te fais chier, bah te fais pas chier, viens, au moins on va faire des choses ensemble, quoi. Voilà. Bon, allez, appelle-moi, quoi. Je suppose que tu n'étais pas levé à cette heure-ci. À plus tard. Ciao, Pierre.
En compensation de toute cette viande étalée et morte, j'encenserai d'emblée la poule, car elle produit des œufs et que les œufs sont tout autant sanctifiés que le poulet dans mon royaume. Mais les œufs mériteraient une autre émission à part entière. Bon, mon poulet. Le poulet, néanmoins, a eu son temps sacré. Vous allez voir que je vais tâcher de compenser la futilité et la trivialité de mon propos par des anecdotes édifiantes et instructives. Ainsi, les prêtres romains de l'Antiquité, qu'on appelle aussi les augures, traduisaient les caprices de Jupiter en regardant, certes, le ciel, le soleil, la forme des nuages et le vol des oiseaux, mais aussi en observant l'appétit des poulets. Je cite le Festus Grammaticus de la signification des mots au livre 14. Outre le vol et le cri des oiseaux, en particulier des pies, des corbeaux et des corneilles, l'augure observait aussi l'appétit des poulets sacrés. Qu'ils refusent les grains et le présage était néfaste. Ainsi, des chefs d'armée pouvaient se promener en mission avec des cages de poulets sacrés et leurs augures attitrés pour pouvoir consulter le futur à tout moment. C'est un peu comme moi et mon tarot en ligne quand je me sens vaguement désespérée de l'existence. Revenons à mon poulet sacré cuit. J'ingère du poulet depuis le plus jeune âge. C'est la viande qu'on mangeait le plus chez moi. Le poulet venait probablement du boucher dans les années 90. Il venait probablement du Simply Market, alias Auchan et en batterie, jusque dans les années 2000, voire 2010. Puis, il était bio, disons vers 2014. Le roast beef, le beefsteak, c'était samedi. Dimanche, c'était ravioli. Voilà, vous savez tout.
Alors je voudrais dire devant tout le monde que j'emmerde les anciens combattants, que j'en ai rien à foutre de tout ça, qu'on a autre chose à foutre que de s'occuper des anciennes guerres, qu'on n'a plus le temps de manifester pour ça, et que les jours des commémorations qu'il y a pour les anciennes guerres, on ferait mieux ces jours-là de manifester pour les guerres qu'il y a actuellement. Et que tout ça, je dis, si mon frère pouvait l'entendre, je lui dirais de revenir, parce qu'on lui dit qu'il va là-bas pour la paix, et ça ce sont des mensonges. Il va là-bas pour les enfoirés des pouvoirs qui ont créé les guerres, où qu'elles soient, pour des idéologies et des religions, et que tout ça c'est de la saloperie. Alors si mon frère m'entend, je dis qu'il se laisse pas berner, qu'il ne croit pas une seconde.
Si j'étais un vampire, j'aimerais qu'en place de dents pointues et de camarades nocturnes, mes victimes se transforment en poulets rôtis. Je les mangerai et je jetterai les os dans la rivière. Voilà, je me suis débarrassée des deux autres mots de cette émission. Parce que ce qui m'intéresse, vous l'aurez peut-être vaguement ressenti, c'est le poulet. Je pense souvent, mettons que j'ai mangé du poulet une fois tous les 15 jours en moyenne, à raison de 200 grammes à chaque fois, à partir de l'âge de 2 ans. Parce qu'avant, on va considérer qu'il était broyé ou... j'en sais rien. Aujourd'hui, j'en ai 35. Donc si on multiplie 26 semaines fois 200 grammes, on obtient 5,2 kg par an, multiplié par 33 ans, donc 35 moins 2, ça nous donne 171,6 kg. Un poulet pèse en moyenne 1,95 kg. On peut donc considérer que j'ai mangé environ 88 poulets dans mon existence. Un poulet mesure entre 40 et 60 cm de long, entre 11,5 et 18 cm de large, et sa hauteur est d'environ 25 à 37 cm. Donc si je calcule une moyenne de tout ça, on obtient un résultat de 3560 cm² à plat. Multiplié par 88, ça nous fait donc 31,3280 m². C'est la surface de mon ancien appartement, plus ou moins. C'est donc comme si j'avais mangé un petit T2 de poulet. Vu comme ça, ça ne semble pas si énorme. Le poulet fait partie, avec les œufs, et mon amie Samia, des astres rostatifs qui assurent ma flottabilité à travers le monde. J'exagère peut-être un peu. Mais l'autre jour, j'ai imaginé devoir choisir entre arrêter de manger du poulet et pouvoir revivre une journée avec ma mère revenue à la vie. Et honnêtement, ce qui m'a donné un petit peu le vertige, je ne suis pas tout à fait certaine de quoi choisir. Après, j'ai réfléchi que je pourrais tout simplement demander à ma mère durant ce jour de retrouvailles de me cuisiner du poulet pour cette journée. Sans rire, penser au poulet me fait considérer la joie immense, peut-être disproportionnée et complètement irrationnelle, que suscite chez moi l'ingestion de certains aliments. Je pourrais parfois en pleurer de fébrilité. Mon corps trépigne, je peux devenir un petit peu agressive et j'ai peur que quelque chose arrive. Une sorte de drame du type « on me retire l'assiette » ou bien « les aliments s'évaporent, on m'ôte le poulet des dents » et puis mon cœur déborde d'une joie panique devant ces assiettes à dévorer. Comment faire ? Comment respirer ? D'ailleurs, les gens qui n'ont pas d'appétit me désespèrent. Je leur en veux de façon injuste, déraisonnable. Je leur reproche intérieurement de manger du bout des dents, comme s'ils me privaient, moi, de quelque chose par leur attitude de pisse-froid. Là, c'est un peu le vieux mec de 60 ans qui sommeille en moi qui parle. Celui qui est avide d'opulence et de bonne chair, bistrotier grasseyant qui veut son morceau de gras. Ou c'est peut-être aussi car mon appétit est immense et cela que je sois euphorique ou parfaitement désespérée. Je me souviens pas mal de pleurer en mangeant. Salle de morve et assiette floue. De manger à m'en faire mal, dans un drame en un acte, pour une personne, qui consiste à s'auto-avilir dans un sursaut d'adolescence. Mon poulet. Mon poulet, mes 88 petits poulets. Souvent, je pense à la scène de l'assommoir où il mange l'oie. Elle fait partie des pages de littérature auxquelles je pense le plus souvent. C'est l'abondance totale. Aussi, je vous propose de vous en lire un extrait. Par exemple, il y eut là un fameux coup de fourchette. C'est-à-dire que personne de la société ne se souvenait de s'être jamais collé une pareille indigestion sur la conscience. Gervaise, énorme, tassée sur les coudes, mangeait de gros morceaux de blanc, ne parlant pas, de peur de perdre une bouchée. Et elle était seulement un peu honteuse devant Gouget, ennuyée de se montrer ainsi, gloutonne comme une chatte. Gouget, d'ailleurs, s'emplissait trop lui-même à la voir toute rose de nourriture. Puis, dans sa gourmandise, elle restait si gentille et si bonne. Elle ne parlait pas, mais elle se dérangeait à chaque instant pour soigner le père Bru et lui passer quelque chose de délicat sur son assiette. C'était même touchant de regarder cette gourmande s'enlever un bout d'aile de la bouche pour le donner au vieux, qui ne semblait pas connaisseur et qui avalait tout, la tête basse, abêti de temps baffré, lui dont le gésier avait perdu le goût du pain. Les Lorilleux passaient leur rage sur le rôti. Ils en prenaient pour 3 jours. Ils auraient englouti le plat, la table et la boutique afin de ruiner la bonbon du coup. Toutes les dames avaient voulu de la carcasse. La carcasse, c'est le morceau des dames. Madame Lerat, Madame Boche, Madame Putois grattaient des os, tandis que Maman Coupeau, qui adorait le coup, en arrachait la viande avec ses 2 dernières dents. Virginie, elle, aimait la peau quand elle était rissolée. Et chaque convive lui passait sa peau par galanterie. Si bien que Poisson jetait à sa femme des regards sévères en lui ordonnant de s'arrêter parce qu'elle en avait assez comme ça. Une fois déjà, pour avoir trop mangé d'oie rôtie, elle était restée 15 jours au lit, le ventre enflé. Mais Coupeau se fâcha et servit un haut de cuisse à Virginie, criant que, tonnerre de Dieu, si elle ne le décrottait pas, elle n'était pas une femme. Est-ce que l'oie avait jamais fait du mal à quelqu'un ? Au contraire, l'oie guérissait les maladies de rate. On croquait ça sans pain, comme un dessert. Lui en aurait bouffé toute la nuit, sans être incommodé. Et pour crâner, il s'enfonçait un pilon entier dans la bouche. Cependant, Clémence achevait son croupion, le suçait avec un gloussement des lèvres en se tordant de rire sur sa chaise à cause de Boche qui lui disait tout bas des indécences. Ah, nom de Dieu! Oui, on s'en flanque à une bosse. Quand on y est, n'est-ce pas? Et si l'on ne se paye qu'un gueuleton par-ci par-là, on serait joliment godiche de ne pas s'en fourrer jusqu'aux oreilles. Vrai, on voyait les bedons se gonfler à mesure. Les dames étaient grosses, ils pétaient dans leur peau, les sacrés goinfres. La bouche ouverte, le menton barbouillé de graisse, ils avaient des faces pareilles à des derrières, et si rouges qu'on aurait dit des derrières de gens riches, crevant de prospérité. Et le vin donc, mes enfants, ça coulait autour de la table comme l'eau coule à la Seine. Un vrai ruisseau lorsqu'il a plu et que la terre a soif. C'est vachement bien écrit, non? Eh bien, c'est du Zola. Émile. Le vieux mec en moi de 60 ans, toujours le même, vous dirait qu'on n'écrit plus comme ça aujourd'hui, non? Je plaisante. Dans le livre de Zola, L'Assommoir, ce moment, c'est un peu le moment bascule du récit. Un peu le sommet, l'acmé, comme on dit prétentieusement. Parce qu'après, Gervaise sombre dans une déchéance totale. Pauvreté, médisance, alcoolisme, mort, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Cette déchéance-là, juste après ce moment de bombance, ça me rappelle comme s'il y avait souvent un rapport punitif à la joie, à l'excès. L'autre jour, je discutais avec mon ami des films d'horreur et il soulignait que surtout dans les films américains, l'assassin ou le monstre arrive toujours pendant que les gens font l'amour, comme une espèce de symbole moral, matinée de religion rancie, contre les pauvres pêcheurs jouisseurs. En ce moment, moi et mon nouveau paradigme, on mange trop, on travaille trop peu, on n'anticipe plus du tout, et on en tire une légèreté qui nous assure une flottaison à quelques centimètres du sol. Et ça nous va très bien. On attend le monstre ou l'assassin qui aura nul doute une forme inventive. Bientôt, tout disjonctera. Le poulet se mettra à convulser et rejeter ses entrailles, comme dans la scène des Eraserhead, pardon. Vous savez cette scène où il est invité dans sa belle famille. On lui propose de découper le poulet. Et pendant qu'il découpe le poulet, celui-ci commence à convulser. Et il y a un liquide noir et dégoûtant qui sort de ses entrailles. Et là, la belle-mère commence à avoir une crise d'hystérie. Et le beau-père reste stoïque. Voilà. Moi et mes 88 poulets, On me poursuivra. Mon ventre explosera. Mais aujourd'hui, n'y pensons pas. Avec Pierre, on s'est rendu compte que souvent, nos émissions finissaient mal. Ou, triste, nos récits finissaient toujours par avoir un petit soupçon de mort et de tragédie. Alors avant toute cette mort et cette tragédie, moi je lèche mes doigts, un par un, et je les espère bien enduits de gras. Je croque dans les peaux dorées, et c'est délicieux. Et comme dit l'autre, je serai joliment goodiche de ne pas m'enfourrer jusqu'aux oreilles.
C'était la 6e émission d'Anine et Monsieur, toujours en direct et toujours BLC. Bonne nuit et à dans 2 semaines.